Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et dans 30 minutes, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et de l'affiche controversée de l'élection présidentielle du 31 octobre. Depuis lundi, depuis l'annonce du Conseil constitutionnel, la tension monte. Les candidats recalés ne cachent pas leur colère. C'est le cas notamment de Guillaume Soro qui promet, je cite, « une nouvelle étape dans son combat pour la démocratie ». On devrait en savoir davantage dans les prochaines heures puisque Guillaume Soro tient en ce moment même en France une conférence de presse. Il vient de déclarer « Ma candidature est irrévocable ». Réaction également chez les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ils appellent à des manifestations. Contestation également parmi les candidats retenus. Et oui, Henri Conan-Bédier, Pascal Affine-Guessant et Kwadio Conan-Bertin dénoncent non seulement la validation de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat, mais aussi l'exclusion de plusieurs leaders politiques à un mois et demi du scrutin. Que vous inspire ce climat ? On en parle évidemment tous ensemble, 33 9 693 693 70, de nombreuses réactions Facebook et WhatsApp, hein, plusieurs centaines. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Des questions pour commencer sur le Mali. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan. Bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI. RFI qui nous parle chaque matin, qui parle de nous.
Oui, et qui vous donne la parole, évidemment. Merci de votre fidélité, Mamadou. Vous êtes à Conakry. Vous nous appelez exactement de la commune de Matoto. Nous vous écoutons.
Monsieur Juan, l'ancien président malien Moussa Traoré est mort mardi dernier à l'âge de 83 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment expliquer le respect témoigné à l'ancien président Moussa Traoré par toute la classe politique malienne. C'est-à-dire malgré son passé autocratique.
Et Moussa Traoré, le tombeur de Modibo Keïta, le père de l'indépendance, il sera resté finalement 23 ans au pouvoir avant d'être lui-même renversé par un coup d'État en 1991. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant de RFI à Bamako. La question de Mamadou, elle est pertinente puisque rappelons tout de même aux plus jeunes de nos auditeurs que les années Moussa Traoré furent des années sanglantes. Aucune contestation n'était acceptée et pourtant, ces dernières années, Moussa Traoré était devenu une sorte de, disons, de vieux sage qui était consulté notamment par la classe politique.
Oui, tout à fait. Le général Moussa Traoré a eu plusieurs vies. Il y a le jeune lieutenant qui prend le pouvoir en 68 avec ses camarades. Il est applaudi par la population. Il fera 23 ans au pouvoir. Mais on se souvient effectivement des années de plomb, arrestations, exilés, création d'un bagne dans le nord du Mali, refus du multipartisme. Mais puis, il y a eu l'insurrection populaire de mars 91 qui le renverse. La démocratie s'installe, Juan, et puis 11 ans après, son épouse et lui sont graciés par l'ancien président Alpha Omar Konaré. Et là, il se réfugie d'abord dans le Coran, la spiritualité, mais également dans la sagesse. Et puis, il ne faut pas oublier que la révolution de 91 n'a pas atteint tous ses objectifs. Deux de ses successeurs élus démocratiquement ont été victimes de coups d'État. Et à un moment, les Maliens ont été nostalgiques de Moussa Traoré, un parti politique créé, c'est même revendiqué de lui. Et puis l'autre chose, c'est qu'il était redevenu rapidement fréquentable parce que la situation au sein de l'armée n'était pas bonne. À l'époque de Moussa Traoré, on avait une armée plus équipée, plus performante, beaucoup moins de corruption, et certains se disent que s'il était au pouvoir, peut-être que le Mali n'aurait pas perdu le contrôle d'une partie de son territoire. C'est un peu pour tout ça, Juan, qu'on s'apprête ici à organiser des obsèques officielles pour l'homme qui, au soir de sa vie, a été quasiment réhabilité.
Oui, effectivement, réhabilité. C'est vrai que tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis sa chute l'ont consulté à plusieurs reprises. On a vu récemment, d'ailleurs, les putschistes du 18 août aller rencontrer Moussa Traoré dans sa maison. Des Maliens, avez-vous dit, hein, Serge Daniel, des Maliens ont été nostalgiques de Moussa Traoré. On aura certainement l'occasion d'en parler demain dans la Libre Antenne. A-t-on répondu à vos questions, Mamadou ?
Oui, merci Monsieur Juan et merci à Serge Daniel et à tous les auditeurs de la RFI.
Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, où il est 8h15. On continue à parler du Mali, mais sous l'angle économique et financier. Mondurou, bonjour.
Bonjour Juan,
Mondurou ?
Oui, allô.
Allô, voilà, on vous entend. J'ai cru que la ligne avait été coupée. Heureusement pour nous, vous êtes toujours là. Mondurou, quelles sont vos questions ?
Voilà, je lis sur le site de Jeune Afrique que l'agence Moody's a abaissé la note du Mali au niveau des ailes de l'Irak. Mmh. Alors, quelles seront les conséquences économiques de cet abaissement sur l'économie malienne?
Oui, Moody's déclasse la note du Mali dans la catégorie risque de défaut élevé. On va tout vous expliquer, mon duo, avec David Bachet, journaliste au service éco de RFI. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Alors les agences de notation, ce sont ces fameuses agences qui font la loi sur les marchés financiers, ce sont elles qui notent la solvabilité des États.
Oui, en fait, les notes qui sont émises par ces agences de notation, elles n'ont qu'une utilité, hein. C'est sur cette base que les investisseurs qui prêtent aux États fixent leurs intérêts. En l'occurrence, la note souveraine du Mali, après le coup d'État du 18 août, est passée de B3 à CAA1, ses perspectives de stable à négative. Bon, en clair, ça signifie que Moody's juge que le pays est plus risqué pour les investisseurs, que les probabilités que l'État ne rembourse pas ses dettes sont plus importantes. Or, plus le risque est jugé élevé, plus les taux d'intérêt exigés par les investisseurs sont importants. Il devient donc plus difficile pour les États de lever des fonds. Lors de la crise financière de 2008, l'abaissement de la note de la Grèce, par exemple, avait sapé tous les efforts du pays pour mettre en œuvre son plan d'urgence, parce que les taux d'intérêt exigés étaient devenus énormes. La Grèce avait donc dû se résoudre à faire appel au FMI et à ses recettes libérales pour pouvoir se financer.
Ouais. Enfin, le Mali et la Grèce sont quand même dans des situations différentes.
Oui, et la grande différence, Juan, c'est que Bamako fait déjà appel aux institutions financières internationales. Le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement prêtent déjà au Mali. Et ils le font déjà à des taux d'intérêt plus avantageux que ceux qui sont dictés par le marché ou par les agences de notation. Alors ça ne veut pas dire qu'elles prêtent en fermant les yeux, hein. Ces institutions ont des exigences de transparence, de rigueur budgétaire, de bonne gouvernance, mais elles n'ont pas vocation à faire du profit avec ces prêts, comme c'est le cas des investisseurs privés qui se réfèrent aux agences de notation.
Donc, ce que vous nous dites, David Bachet, c'est que finalement, pour le Mali, l'impact sera assez limité.
Oui et non. En fait, ce que je dis, c'est qu'à court terme, ce n'est pas vraiment ça le principal problème. Le Mali est passé d'une mauvaise note à une très mauvaise note. Bon, les investisseurs comme les partenaires du Mali, hein, qu'il s'agisse d'États ou d'institutions multilatérales, ne vont pas scruter ce changement comme s'il s'agissait d'une révolution. En revanche, ils scrutent la situation, ils scrutent les causes de cette dégradation. Pourquoi est-ce que Moody's a abaissé la note du Mali? Eh bien parce que le coup d'État du 18 août a de facto plongé le pays dans l'instabilité, et parce que cette instabilité pourrait durer. Ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais c'est ce que redoute Moody's et c'est ce qui dicte sa décision.
Oui. David, il y a l'instabilité à court, moyen ou long terme, seul l'avenir nous le dira, on verra bien, mais il y a aussi les sanctions qui sont en cours, les sanctions notamment de la CEDEAO.
Aussi et surtout, Juan, c'est vrai que depuis le coup d'État, les pays de la CEDEAO ont fermé leurs frontières avec le Mali et ils imposent un embargo sur tous les flux financiers et commerciaux avec le pays, en dehors de certains produits de base ou d'urgence. Ces sanctions, elles ont un impact direct sur l'activité économique du pays, notamment sur les exportations d'or, de coton ou de bétail, qui sont des ressources importantes. Tant que ces sanctions sont maintenues, elles représentent un handicap important pour les Maliens, d'abord, au quotidien, mais ensuite pour les caisses de l'État, et donc pour la fiabilité de l'État malien, pour sa capacité à respecter ses obligations en matière de dette. Ça, ce sont les mots de l'agence, les mots de Moody's, précisément. Alors, quand prendront fin ces sanctions? La CEDEAO a redit mardi qu'elle ne les lèverait qu'après la nomination d'un président et d'un premier ministre de transition civile, et ils ont demandé que ça soit fait d'ici une semaine. Hier, le CNSP a même affirmé que les chefs d'État de la CEDEAO les avaient menacés d'asphyxier le pays en renforçant les sanctions si leurs exigences n'étaient pas respectées. Alors, est-ce que la junte va s'y plier? Est-ce que le bras de fer va se poursuivre? C'est tout ce qui se joue actuellement.
Et on en parlera certainement demain dans la Libre Antenne avec les auditeurs. Vous êtes au Mali, vous souhaitez réagir justement à ces sanctions de la CEDEAO. Alors, impact peut-être dans votre vie quotidienne. Appelez-nous, vos témoignages évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70. Mondurou.
Oui.
On a répondu à vos questions?
Oui, c'est clair.
C'est clair. Bah, tant mieux. Merci à David Bachet du service éco de RFI. Bonne journée à tous les deux. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur l'Afghanistan et les négociations de paix qui se tiennent à Doha. Bonjour David.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Samedi dernier, se sont ouverte au Qatar des négociations historiques de paix entre les talibans et le gouvernement afghan. Quelles sont les divergences de vue principales entre les participants ? Juan, j'ai une deuxième question.
Allez-y.
Bon, pourquoi dit-on que les talibans sont en position de force ?
Ah, effectivement, c'est vrai qu'on les présente comme étant en position de force face au gouvernement afghan. En tout cas, ces nouvelles négociations sont censées mettre un terme à 2 décennies de violence, 19 ans de violence. Bonjour Sonia Ghezali.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondante de RFI dans la région, il faut quand même préciser que c'est la première fois, la toute première fois que les talibans acceptent de dialoguer directement avec les autorités de Kaboul, des autorités qu'ils ont toujours qualifiées de pantins de Washington. Effectivement, les talibans et le gouvernement ont des visions antagonistes de l'Afghanistan. Quelles sont concrètement les principales divergences ?
Alors, on peut dire que la divergence, c'est le modèle politique de l'Afghanistan, puisque le gouvernement afghan défend la constitution afghane. L'Afghanistan est une république, il faut le rappeler, une république islamique, certes, mais sa constitution est basée sur le système de la démocratie. Les talibans, eux, sont clairs, ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est un émirat islamique, donc un État fondé sur la charia, la loi islamique, et ils rejettent, par exemple, les lois qui punissent les crimes par des peines de prison, parce que selon si une personne vole, il faut lui couper la main, comme le type la charia. Et donc c'est la position des leaders talibans qui sont à Doha, et c'est celle des combattants, des militants, des sympathisants talibans. Et c'est évident qu'un bras de fer va s'engager sur cette question. Les discussions vont être très très difficiles, elles seront certainement très longues. Ils doivent trouver un terrain d'entente finalement pour partager le pouvoir, et la tâche s'annonce ardue, on comprend.
Et puis la question des droits de l'homme et des droits des femmes notamment est un autre point de divergence.
Oui, alors les femmes en zone urbaine en Afghanistan ont vu leur vie changer de façon considérable au cours de ces 19 dernières années, avec un accès à l'éducation, au travail. Certaines femmes sont parties du Parlement, du gouvernement. Les talibans disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas contre l'éducation des femmes, qu'ils ne le sont plus, du moins. En revanche, pas question pour eux qu'une femme ait des responsabilités politiques ou qu'elle tienne un commerce, par exemple.
Oui.
La protection des droits des femmes n'a d'ailleurs jamais été considérée comme une priorité par les deux parties dans ces discussions à Doha.
Donc, sujet là aussi certainement tendu au moment d'en parler et de rentrer dans le vif des débats. Davy se demandait pourquoi les talibans sont-ils présentés aujourd'hui comme étant en position de force ?
Alors, pour deux raisons principales. Tout d'abord, pour une raison militaire, puisque les talibans contrôleraient ou auraient une influence sur près de 60% du territoire. Ils exercent une pression militaire constante, et ça c'est leur force. D'ailleurs, ils refusent pour l'instant tout cesser le feu parce que c'est leur moyen de montrer qu'ils ont l'avantage sur le terrain et qu'ils peuvent tenir aussi longtemps qu'il le faudra dans ces négociations. Et puis, ils n'ont fait aucun compromis depuis le début des discussions entamées tout d'abord en tête-à-tête avec les Américains en février dernier. Ils se sont engagés auprès d'eux à couper tout lien avec les groupes terroristes, une promesse contre le retrait des groupes étrangers. Les talibans ont exigé à ce moment-là la libération de leurs prisonniers, 5 000, exigences pour commencer des discussions intra-afghanes qui ont lieu en ce moment à Doha. Et ils ont obtenu cette libération malgré le refus au départ du président afghan qui a dû finalement céder sous la pression des États-Unis. Donc le gouvernement afghan n'a plus rien pour négocier et ses prisonniers étaient la seule chose qui lui permettait d'avoir du poids dans ces discussions. Les talibans ont adopté par ailleurs une ligne dure, ils l'ont encore montré dernièrement en nommant l'une des figures les plus conservatrices et les plus respectées du mouvement taliban pour mener ses pourparlers. Mmh. Alors qu'en face, la délégation nommée par le gouvernement est à l'image de la classe politique afghane. Elle est divisée et sous la pression des États-Unis qui chapeautent depuis le début ces négociations.
Négociations et à suivre évidemment, notamment avec vous Sonia Ghezali. Davy, a-t-on été clair ? Êtes-vous satisfait de nos explications ?
Oh, oui, c'est clair. Réponse en clair.
Très bien. Bah, bonne journée à Brazzaville. C'est bien ça.
Merci.
Allez,
merci
à bientôt. Merci à vous. Il nous reste 5 minutes. On a contacté ce matin pour répondre à une question d'auditeur. Dominique Morvan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Aix-Marseille, spécialiste de la physique des feux. Ernest de la région parisienne nous a contacté. Il a des questions à vous poser, notamment concernant les incendies en ce moment même en Californie, aux États-Unis. Bonjour Ernest.
Bonjour Monsieur Gomez.
Et nous vous écoutons.
Bonjour à tous les auditeurs de Cotonou.
Ah, vous êtes béninois alors ?
Ouais, bien sûr.
Voilà, béninois de la région parisienne. Allez, nous vous écoutons. Ouais.
Alors, des incendies de grande ampleur dévastent actuellement l'ouest des États-Unis. Ces individus ont aussi sévi dans plusieurs pays, l'Australie, forêt amazonienne et les États-Unis, bien sûr.
Oui.
Comment expliquer la multiplication des méga-feux un peu partout dans le monde? Y a-t-il un lien avec le réchauffement climatique?
Mmh. Alors, un lien avec le réchauffement climatique. Bonne question. Dominique Morvan, on voit la côte ouest des États-Unis en proie à des incendies qui embrasent la Californie. On a tous en mémoire ces images tragiques de l'Australie, de la forêt amazonienne. Comment expliquer la multiplication de ces méga-feux?
Alors, je vais commencer par la situation dans l'ouest des États-Unis. Elle peut être différente de celle de l'Australie et de la forêt amazonienne. Alors, ce qui se passe en fait dans l'ouest américain, c'est que les forêts, depuis de nombreuses années, sont sujettes à des sécheresses à répétition. Et également, donc, elles sont soumises, on va dire, à des hivers relativement, chauds, qui favorisent l'infestation d'insectes. Donc, globalement, sous l'effet de la sécheresse et sous l'effet, on va dire, de ces insectes qui sont des véritables tueurs d'arbres, eh bien, ces forêts sont fragiles. Malades, beaucoup d'arbres morts, et donc la moindre étincelle va se transformer en feu catastrophique. C'est pour ça que même dans des régions relativement situées au nord, hein, puisqu'on a vu des grands feux au nord de la Californie, dans l'Oregon, on a vraiment des feux qui sont d'une ampleur et d'une intensité très très importante.
Historique, effectivement. En Amazonie, en revanche, on voit bien que la situation est différente, puisque la forêt est de type tropical humide.
Voilà. Les feux qui se déroulent, on va dire, au niveau de l'Amazonie sont complètement différents. C'est des feux qui sont en fait dus au développement de l'agriculture intensive, en particulier au Brésil. Hein. Et donc, c'est le résultat d'écobuages pour pouvoir nettoyer le sol, pour pouvoir le libérer, on va dire, le sol de la forêt, pour pouvoir cultiver, entre autres, du soja.
Ouais. Va-t-on pouvoir prévoir des phénomènes similaires dans les années à venir?
Alors, on peut s'attendre en fait à ce que, alors il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs éléments à des niveaux de sur des échelles de temps différents. Alors, pour tout ce qui concerne, on va dire, le réchauffement climatique, c'est sûr que les fruits, on va dire, d'une politique, bénéfique pour réduire les effets du réchauffement climatique prendront du temps. On n'est jamais d'ailleurs sûr que finalement on n'ait pas atteint un point de bascule. Par contre, ce qui peut être réalisé, en fait, c'est éventuellement réduire les effets, hein, parce que, par exemple, je reviens sur l'Ouest américain. Ce qui est dramatique, ce sont aussi les effets sur la population, hein, quand on voit en particulier ces quartiers entiers, ces villes entières qui sont détruites. Mmh. Là, il y a peut-être des éléments de réflexion à faire en matière d'aménagement du territoire. Ne faut-il pas interdire ou modifier les lois d'urbanisme dans certaines zones particulièrement risquées?
Effectivement. Dominique Morvan, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps pour répondre à Ernest de la région parisienne. Dominique Morvan, professeur à l'université Aix-Marseille, spécialiste de la physique du feu. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain, appelez-nous, on attend vos questions, on a besoin de connaître vos questions avant le début de l'émission, évidemment, pour contacter nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. 33 9 693 693 70, et si vous nous envoyez vos questions sur la page Facebook de l'émission, faites-le en message privé. Comme ça, vous pouvez nous envoyer un numéro de téléphone et on se fera un plaisir de vous recontacter et de vous donner la parole. Le standard, en tout cas, reste ouvert puisque dans 10 minutes, nous débattrons ensemble de l'affiche de l'élection présidentielle du 31 octobre. 4 candidats retenus sur 44 candidatures déposées. 4 candidats, c'est peu, diront certains. En tout cas, la présence de certains d'entre eux parmi les figurants de la présidentielle fait polémique. Les recalés, eux, sont en colère. On vous donne la parole, évidemment, juste après le journal.